toi, mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Avec Ludo.
Bonsoir.
Salut Ludo. Et Christophe aussi.
Bonsoir.
L'équipe historique de Mode d'emploi, voilà.
Et vous avez Gilles à la technique.
Oui, au micro, non, je crois.
Au micro. À la technique, c'est Claude, bien sûr, comme d'habitude. Merci Thierry. Alors ce soir, beaucoup de choses au programme, puisque au menu, il y a bien sûr, nous parlerons des négociations sur la réforme du marché du travail avec Catherine Lebrun par téléphone du syndicat Solidaire. Nous parlerons également de François Chérec, reclassé au gouvernement, et des charlatans de la flexibilité. Et nous parlerons, je crois Ludo, qu'on veut également parler de Renault, hein, qui effectivement va... sans doute licencié encore, peut-être.
Mais comme d'hab. Hein.
Comme d'hab, voilà. Donc, pas mal de choses au programme ce soir. À tout de suite. Très bien, donc comme vous avez pu le voir par les informations dans tous les médias, on a parlé de ces négociations sur le marché du travail. Le MEDEF a exigé un certain nombre de compromis, lui permettant effectivement de continuer à licencier sans contrepartie. Nous avons essayé d'avoir par nos camarades ici présents un peu ce qu'ils en ont pensé de ces négociations. Voilà, donc il y a également aussi pour la flexibilité pour les employeurs... donc une flexibilité pour les employeurs et une sécurisation des parcours professionnels hein, dans ce nouveau contrat enfin signé par l'ensemble des syndicats. Est-ce que tu penses, Ludo, juste comme ça à brûle pour point, qu'est-ce que tu as pensé de ces réformes et de ces négociations?
Eh bien, écoute, je vais vous surprendre ici à Mode d'emploi. C'est que, donc, après avoir lu une large partie de l'accord, j'ai trouvé que c'était nettement mieux que ce qui avait été proposé jusqu'à maintenant en termes de sécurisation des parcours professionnels. Donc, jusqu'à maintenant, je rappelle, le concept était quand même un peu fumeux dans la mesure où, à chaque négociation collective, le patronat réduisait toujours les droits au minimum. Hein. Et il faut se souvenir qu'en fait, ce projet avait été au départ porté de façon propagandiste, je n'hésite pas à le dire, par Monsieur de Villepin. C'était la fameuse flexu sécurité.
Ouais.
Voilà, donc il avait piqué aux Danois en fait. Sauf que il avait repris largement la partie flexibilité au détriment de la sécurisation, ce qui avait d'ailleurs donné à l'époque, le fameux premier emploi contrat poubelle, quelque chose comme ça. Vous savez, c'était cet emploi avec des périodes d'essai de 2 ans. Donc, il y avait tout de la flexibilité, rien de la sécurité. Et donc, là, de la sécurisation. Merci, Thierry. Et donc, effectivement, là, pour la première fois, il semble qu'on ait au moins une légère avancée sur les droits, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les droits voilà, des salariés, que ça soit un peu plus consistant. En échange de quoi, effectivement, le patronat a obtenu des concessions de la part, on va dire, des principaux syndicats qui signent habituellement les accords de ce type, donc en l'occurrence la CFDT, CTT, et ouais. la CFTC et la CGC. Effectivement, ils ont obtenu des accords sur la flexibilité qu'aurait souhaité obtenir Nicolas Sarkozy. Et enfin, je pense qu'on peut le dire. On peut même dire qu'il y a finalement une tentative de remise en cause des 35 heures, même si c'est pas très clair dans le texte, indirectement des 35 heures. Voilà, je pense que la camarade de Sud qui va intervenir tout à l'heure nous en dira plus sur la question.
Bien sûr. Oui, Thierry.
Ludo, est-ce que tu penses de la remise en cause du CDI?
Alors, bon. Alors justement, là,
ce sujet, oui.
Oui, ben, ce sujet, parce qu'en fait, le texte n'est pas très clair. En fait, le texte fait deux choses. D'abord, il crée un CDI pour les intermittents. Ce n'est pas les intermittents, c'est les intérimaires. Voilà. Sauf que, donc, un CDI pour intérimaires, mais qui n'a pas vocation
à perdurer.
C'est-à-dire à être un CDI effectivement classique, au sens où c'est un CDI qui peut, puis par la nature même de l'activité d'intérimaire, être interrompu et qui ne donne pas, a priori, droit, si vous voulez, à une charge minimale de travail pour l'employé. Donc là, c'est encore flou parce que finalement, c'est renvoyé à la négociation de branche. Et donc on n'a pas encore on a rien sur la question pour le moment. Donc effectivement, hein, pour le moment, je joue sur les mots CDI intérimaire, on ne sait pas du tout le revenu minimal. Alors il y aura peut-être un revenu minimal de garantie de rémunération ou un lissage sur toute l'année, bon ça on ne sait pas. Mais effectivement, dans cette même idée, il y a aussi un contrat, un CDI de projet. Oui. Qui a été, ou plutôt on appelle ça un CDI intermittent, qui a été mis en place, et qui est mis en place pour dans des secteurs où, par nature, il est écrit, l'activité est intermittente. Donc, alors je dis au hasard, ça peut être le bâtiment, par exemple, où on a des successions de chantiers, ou l'informatique, où on a ces fameux périodes d'intercontrat. Et là, ce qui est dit aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de garantie de rémunération égale sur toute l'année, par définition, vous voyez. La seule chose, c'est qu'il y aura un lissage peut-être de la rémunération sur toute l'année, c'est-à-dire les périodes d'activité, on répartira le salaire de la période d'activité sur la période non travaillée, et ça peut éventuellement donner des droits aux salariés en cas de rupture du contrat. Donc il y a effectivement dans le texte une tentative de remise ou en tout cas un aménagement des CDI pour, alors oui, on peut le voir de deux côtés, effectivement c'est une remise en cause du fameux CDI, ou alors au contraire une volonté de lutter contre la précarité des gens qui jusqu'à maintenant sont en CDI.
Alors, le CDI par projet ne touche pas les secteurs qui, jusqu'à maintenant, étaient effectivement pérennes. En fait.
Alors non, oui. Mais sauf que ça veut dire qu'à l'embauche, effectivement, les salariés qui, en temps normal, se seraient vus proposer des CDI pourraient très bien se voir proposer des CDI à projet, en quelque sorte. Hein. Voilà. Et puis, alors, dans le même ordre d'idée, effectivement, les syndicats ont obtenu une taxation des CDD. Importante, donc je crois que c'est 7%, pour les CDD de 1 mois. Donc effectivement, on sait très bien que quand on prend les enquêtes besoin de main-d'œuvre, que finalement, les enquêtes besoin de main-d'œuvre, c'est des déclarations patronales sur les personnes qui souhaitent embaucher. Généralement, c'est très peu suivi des faits, hein, entre la déclaration de besoin de main-d'œuvre et puis les embauches effectives. Bah. Mais par contre, arrivent en tête tous les CDD de 1 mois. Largement en tête, et c'est toujours ce volume-là. Bon, alors là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'a priori, c'est une bonne avancée. Alors, c'est une avancée, effectivement, pour... alors, c'est dégressif, hein, c'est-à-dire c'est 7% pour un mois, et puis ça va à 4% pour trois mois. Donc, on peut dire... vous voyez, on s'est quand même pas foulé, quoi. Un mois, taxé au maximum un mois, bon, bah oui, c'était le minimum. Trois mois, déjà, trois mois, finalement, décédé trois mois, il y a beaucoup de gens qui en signent, quand même. Hein. Oui, et ça vaut souvent période d'essai. Donc, est-ce que c'est vraiment une lutte contre le CDD? Mais, cela étant dit, rien n'empêche les entreprises, désormais, c'est vrai, de passer par l'intérim. Rien n'empêchera de contourner la loi.
Ouais, donc, Ludo, avec le nouveau CDI qu'ils mettent en place, tu ne trouves pas qu'ils vont remplacer le CDD d'un mois par un CDI d'un mois?
Non, c'est pas possible. Parce que la période d'essai est déjà prévue au minimum d'un mois, elle est de 1 à 3 mois.
Non, c'est 3 mois.
Donc, non. Alors, en principe, on utilise plutôt le CDD pour faire période d'essai. D'ailleurs, le texte précise bien que le CDD n'est pas taxé si derrière il est suivi d'un CDI. Ce qui veut dire que désormais, on pourra faire avec un CDD, faire valoir période d'essai pour un CDI, quoi.
Ouais, donc il fait une période d'essai de 3 mois et après, on t'embauche un mois.
Non, ça c'est pas envisageable.
C'est déjà arrivé, hein. En CDI d'un mois, des CDI d'un mois, c'est déjà arrivé.
Oui, mais alors après, ça a des périodes d'essai, c'est-à-dire que c'est des ruptures de période d'essai. Alors ça, c'est possible, hein, de faire traîner la période d'essai, en fait, de 3, 4, 5, 6 mois, hein, ce qui est, à mon avis, déjà largement le cas.
Alors, on va faire peut-être un petit rappel historique sur la flexibilité, parce que la flexibilité a une histoire. Alors, quelle est cette histoire, Christophe, un petit peu, dis-nous en quelques mots.
Alors, il y a un excellent article du 18 janvier fait par un journaliste qui rappelle qu'en fait, la flexibilité du marché du travail, c'est un grand classique du débat français sur ce thème-là. Ça fait près de 30 ans que la controverse rebondit sans cesse, alimentant périodiquement les négociations salariales et entre partenaires sociaux. On oublie très souvent, on n'a pas de regard historique sur les joutes de ces trois dernières décennies. Hein. Alors, je vais faire un petit rappel. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de flexibilité. Il faut savoir que les premières escarmouches qui ont taillé en pièces le code du travail, ça date de la fin des années 70, avec notamment les fameux stages bars. Mais sauf que voilà, la tentative a fait long feu, puisque parmi les 110 propositions du premier gouvernement de gauche d'après-guerre en 81,
Mitterrand, oui.
Mitterrand, la flexibilité, l'exigence numéro un, c'est le contrat de travail à durée indéterminée qui devient la base des relations du travail. Vous voyez, tu vois, on en est loin. Pourtant, à l'époque, chez les socialistes, c'était inconditionnel, c'était non négociable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après la victoire de la gauche en 81, Yvan Gattaz, qui était alors le président du CNPF, ancien MEDEF, a une idée. Il promet que les entreprises créeront des centaines de milliers d'emplois nouveaux, qu'il dénomme sans trop de gêne des encas, pour emplois nouveaux à contraintes allégées, si la puissance publique, évidemment, engage une forte déréglementation du marché du travail, donc du code du travail. Tout simplement, il veut qu'on supprime l'autorisation administrative de préalable à tout licenciement qui était la norme à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas virer...
Pourtant, comme... c'était en 86 que la chose a été faite.
Et ben voilà, oui. C'est-à-dire que lorsque Jacques Chirac, Chirac arrive en 86 au pouvoir, il satisfait sans la moindre concertation à cette revendication patronale. Le code du travail est donc fortement assoupli, avec notamment à la clé... cette fameuse suppression de l'autorisation administrative préalable de ces licenciements. Mais les centaines d'emplois, de milliers d'emplois promis, évidemment, on n'en verra jamais la couleur, puisque le chômage va aller crescendo au fil des décennies. Eh bien, tu vas te dire, c'est un truc de droite. Eh bien non, puisque n'empêche qu'à partir de 86-88, la course à la flexibilité est lancée au ultralibéralisme. Tout le monde veut y participer, aussi bien la droite que la gauche. C'est d'abord Martine Aubry, ministre du Travail, qui organise en 92 les premiers fameux allègements de charges sociales pour favoriser le temps partiel féminin. Entre-temps, Lionel Jospin, devenu premier ministre, oublie opportunément qu'il avait promis, avant les législatives de 97, le fameux rétablissement de l'autorisation préalable au licenciement. Dans la fouillée, il y a deux projets de loi pour taxer les entreprises qui recourent exagérément au travail précaire, mais finalement, c'est pas présenté, tu vois. Et puis ensuite vient arriver l'ère Sarkozy, qui, avec les contrats d'inmission promus par ce même président, crée un nouveau système de rupture conventionnelle. C'est un véritable séisme qui ébranle le marché du travail. 9 emplois créés sur 10 sont alors des CDI, mais 3 décennies plus tard, la proportion s'est inversée. En France, quand 10 emplois sont créés, 9 relèvent de ce que les statisticiens, appellent des formes particulières d'emploi, traduction des CDD. Or, la promesse d'Yvan Gattaz, ancien patron du CNPF et donc du MEDEF, du patronat, n'a donc pas été tenue. Car la réforme du marché du travail était supposée être la condition impérative pour sortir la France du chômage. On croit rêver lorsqu'on dit ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que de nombreuses études établissent que l'équation ne fonctionne pas de la sorte. La véritable équation, si le marché du travail est assoupli, les entreprises embauchent en effet plus vite en période de croissance, mais licencient également tout aussi vite en période de stagnation ou de récession. Au final, le stock d'emplois est tout simplement un stock d'emplois précaire. La flexibilité ne stimule pas l'emploi, mais seulement ce qui n'a strictement rien à voir, l'emploi précaire, c'est QFD. Donc, on peut se poser la question aux dernières négociations entre les partenaires sociaux. Pourquoi un gouvernement de gauche a voulu remettre une couche sur cette précarisation, notamment avec les CDI de mission, des choses comme ça, alors qu'il y a en France 5 millions de chômeurs et bien dont 2 millions de pauvres, de très pauvres, et parmi ces centaines de milliers de personnes, des personnes qui travaillent, qui ont le qualificatif de travailleurs pauvres. Je laisse cette réflexion à l'ensemble de nos éditeurs.
Je crois que nous avons... nous avons effectivement Catherine Lebrun au téléphone. Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Catherine Lebrun, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Oui.
Vous êtes une grande responsable du syndicat solidaire. Je crois que vous avez suivi ces négociations de très près. Alors d'abord, qu'en avez-vous pensé, de façon générale ?
Bon, il faut quand même savoir que nous n'étions pas dans ces négociations, hein, comme l'une seule autre syndicat qui n'était pas convié à la table des négociations. Donc on n'était pas en direct dans ces négociations, mais on a suivi évidemment les évolutions des textes et des négociations entre le patronat, le MEDEF et les confédérations syndicales. Hein, donc, mais je tiens à préciser qu'on n'était pas dans les...
Oui, mais bien sûr. Oui.
On était exclus de ces négociations. Donc, oui. Non, parce que on pense, et on n'est pas les seuls à le penser, hein, la CGT et FO pense de même, c'est que ce qui est présenté par beaucoup comme une grande avance d'un grand dialogue social. Le problème, c'est que ce contenu de ce fameux dialogue social est pour nous, en réalité, une véritable régression sociale. Hein, en guise de compromis soi-disant historique, c'est une régression sociale historique parce que le contenu de l'accord donne toute liberté de licencier pour le patronat et réduit considérablement les droits des salariés à tout point de vue. Donc c'est vraiment une attaque majeure contre le droit du travail qui est à l'œuvre dans cet accord, quoi. Donc c'est absolument dramatique que des organisations syndicales aient pu signer un tel accord, parce que c'est loin d'être un accord, comme ils disent dans leur jargon, gagnant-gagnant. C'est vraiment les quelques mesures qui sont présentées comme étant des avancées, notamment concernant les contrats à durée déterminée. En réalité, d'abord, ça concerne pas tout le monde, et ensuite, c'est toujours assorti de contreparties largement favorables au patronat. Donc c'est voilà. Donc à chaque fois, de toute façon, la balance est complètement en faveur du patronat, et malheureusement, le gouvernement semble s'acheminer vers la transcription telle quelle de cet accord dans la loi. Donc voilà, c'est absolument dramatique, et nous, en tout cas, on va essayer de tout faire pour construire la mobilisation contre cet accord, et pour que les parlementaires ne le valident pas. Mais il faudrait que les organisations syndicales non signataires, notamment CGT et FO, soient d'accord pour enclencher une mobilisation dans les semaines et le mois qui vient, puisque c'est censé être discuté au Conseil des ministres début mars, et discuté par le Sénat et l'Assemblée nationale courant avril. Donc il nous reste très peu de temps pour construire une mobilisation qui fasse barrage à cet accord, vraiment, comme je le disais en introduction, totalement une régression sociale majeure, quoi.
D'accord. Alors juste une dernière question encore générale, si vous me permettez, c'est que effectivement, a priori, le MEDEF a gagné sur les crédits d'impôt de 20 milliards, hein, sans contrepartie.
Sans contrepartie.
Sans contrepartie aucune, hein, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est acté et qu'il n'y aura plus du tout de table ronde, et que on ne peut pas éventuellement améliorer la situation avec, parce qu'on parlait effectivement de possibilités de renégociation jusqu'à la fin de l'année sur ce qui a déjà été plus ou moins signé, mais en même temps sur des améliorations possibles du texte
De l'accord lui-même.
De l'accord lui-même, non ?
Ah non,
c'est fini. Il n'y aura pas des annexes ou des choses comme ça, des...
Pardon ?
Il n'y aura pas d'annexes éventuellement d'autres...
Alors, il y a des annexes, oui. À l'accord lui-même, sauf que dans les annexes, justement, quand on parcourt un peu les annexes, au contraire, ça donne un éclairage encore plus catastrophique. Je ne prends que l'exemple, par exemple, vous savez, la disposition sur ce qu'ils appellent le maintien de l'emploi, c'est-à-dire un accord qui doit être signé par un accord majoritaire qui doit être signé par les organisations syndicales d'une entreprise. Oui. Soi-disant avec possibilité de baisse de salaire et d'augmentation du temps de travail, soi-disant pour une durée de 2 ans, tout ça pour maintenir l'emploi, ce qui est censé maintenir l'emploi, pendant 2 ans. Sauf que quand on regarde l'annexe concernant précisément ce point-là, par exemple, il y a un codicille qui dit en substance que l'employeur pourra dénoncer cet accord pour des raisons de détérioration économique de la situation, ce qui est évidemment une notion plus que vague, que large. Et l'employeur pourra dénoncer l'accord qui est censé maintenir l'emploi pour évidemment, au bout du compte, licencier. Donc quand on regarde les annexes, c'est bien pire même, parce qu'on voit très bien comment ça précise, en tout cas, le déséquilibre total entre ce qui reste largement entre les mains de l'employeur et ce qui revient du point de vue du droit des salariés. Donc c'est les annexes, c'est au contraire, sont absolument vraiment éclairantes sur la nature de cet accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'au niveau gouvernemental, toutes les déclarations qui ont été faites par Hérault ou même par Hollande disent qu'ils veulent que ça soit retranscrit tel quel au nom d'un dialogue social absolument exemplaire. Donc, le problème maintenant, c'est qu'au niveau des parlementaires, on sait d'ores et déjà que côté PC et parti de gauche, ils ne voteront pas cet accord. Mais le problème, c'est que côté PS, à part quelques voix qui s'élèvent, ce qu'on appelle la dite aile gauche du PS, qui semble évidemment voir toutes les régressions qui sont contenues dans cet accord, à part ces personnes-là, mais qui se comptent sur les doigts de la main et qui probablement, ça se trouve, finiront par rentrer dans le rang, le problème, c'est que l'ensemble du PS, par ailleurs, va sûrement avoir le petit doigt sur la couture du pantalon et ne faire aucun amendement. Et bon, voilà, donc c'est... La situation est gravissime. Hein, donc,
si vous me permettez, on va essayer pour les auditeurs de décrypter un petit peu cet accord, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ludo, tu veux...
Oui, à vous écouter, en fait, comme on l'avait dit en début de cette émission, nous on a l'impression ici, si vous voulez, que... il y a quelques avancées sur la fameuse sécurisation des parcours professionnels pour la première fois depuis bien longtemps, mais qu'en revanche tout ce qui concerne les licenciements collectifs ou le, comme vous dites, la remise en cause implicite des accords des 35 heures, là par contre c'est la note risque d'être beaucoup plus salée en fait pour les salariés. Alors je veux dire, ces fameux droits, cette portabilité des droits ou cette sécurisation des salariés, par exemple je pense à la couverture complémentaire de santé pour tous les salariés qui sont pris en charge à 50-50 hein, par le...
Oui, ben justement. Alors, parlons de la complémentaire santé. C'est 50-50, comme vous dites, alors qu'auparavant, c'était 57% à la charge du patronat. Donc déjà, le patronat, il trouve son compte. Hein, et donc, les salariés paieront 50%. Et le problème, c'est aussi la porte ouverte, mais ça c'est un débat qui touche en gros la sécurité sociale, c'est que les assurances privées vont pouvoir là aussi trouver un marché juteux. C'est aussi ça qui est en jeu hein, derrière cette complémentaire santé. Faut quand même pas l'oublier. Hein, donc,
est-ce que ça signifie que jusqu'à maintenant tous les salariés n'avaient pas droit à une couverture complémentaire santé?
Oui, sinon, si il y a des entreprises où ça existait, ça existe déjà les complémentaires santé. Hein,
voilà, oui.
Ça, c'est pas, je veux dire, c'est là ça a élargi la possibilité. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas. D'abord, il y aura le choix de trouver qui couvrira cette complémentaire santé. Et je vous dis, là, pour le coup, il y a vraiment une porte ouverte à en tout cas un marché intéressant pour les assurances privées. Et mine de rien, ça mine, une fois de plus, en tout cas, ce qui serait une protection sociale solidaire. Hein, je veux dire, c'est quand même pas... C'est pas anodin, hein, je veux dire.
D'accord, donc c'est largement surestimé. Alors, pour prendre un autre exemple, le droit à la mobilité volontaire. Donc, ça paraît intéressant puisque il semblerait que le salarié puisse, donc avec accord de son patron, aller voir ailleurs sans, voir un autre emploi ailleurs, sans pour autant sans pour autant démissionner et simplement que son contrat de travail soit suspendu le temps qu'il aille voir une autre entreprise en puisse la réintégrer. Donc ça fait rêver n'importe quel salarié qui se dit mais ma foi j'en ai tellement marre de bosser chez moi que
c'est de la flexisécurité ça pour le coup.
Bah,
Oui, enfin, alors là aussi, quand on regarde un peu dans le détail, c'est que, par exemple, s'il ne souhaite pas intégrer l'entreprise qu'il vient de quitter, donc le contrat, évidemment, sera rompu. Mais ce qui permettra à l'entreprise de laquelle il est parti, bon, de ne pas avoir, ça fera une rupture de contrat. Donc, ça veut dire, ça fera comme une démission. Et résultat des courses, l'entreprise de départ sera complètement exonérée des obligations légales et conventionnelles qui sont attachées à un licenciement. Donc, et deuxième chose, c'est que ça apparaît comme une mobilité volontaire. Et quand on voit le bilan des ruptures conventionnelles, que là aussi qu'on a présenté comme disons quelque chose de, qui bénéficie aux salariés de pouvoir bon avec la rupture conventionnelle toucher les allocations chômage, le problème c'est que ces ruptures conventionnelles, on a vu une explosion mais délirante de ces ruptures conventionnelles qui en fait sont en réalité des licenciements déguisés, et donc on peut craindre que y compris dans cette question de mobilité volontaire sécurisée, il y ait des pressions telles, vu le rapport de force dans les entreprises entre salariés et employeurs, que ce qui apparaît comme un choix ne en soit pas, hein, comme pour les ruptures conventionnelles. Donc il faut bon là aussi être très très vigilant et très lucide sur comment les employeurs détournent des dispositifs qui semblent comme ça présentés comme étant tout bénéfice pour les salariés, vous voyez, par exemple, quand on prend ces dispositions là.
Alors selon vous, quel aurait été un bon accord justement, puisqu'on a parlé d'accord historique, bon c'était un bien grand mot vu le résultat.
Bon accord pour nous, mais vous allez comprendre tout de suite que évidemment ça suppose un rapport de force avec le MEDEF assez costaud. C'est que évidemment à l'inverse il aurait fallu d'abord la question des l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Il aurait fallu au contraire renforcer les possibilités de droit de veto des représentants des salariés
qui sont admis pour la première fois au conseil d'administration des représentants.
Oui, enfin bon, avec un pouvoir. Alors là aussi, c'est pareil, c'est avec un pouvoir plus que limité. Bon, je veux dire, je pense que c'est un peu, c'est un petit amuse-gueule qu'on a donné aux organisations syndicales. Mais enfin, enfin là aussi, les rapports de force est tel que de toute façon, ça sera un strapontin qui ne remettra absolument pas en cause le droit des employeurs. Je veux dire, là aussi, c'est en plus, ça existe déjà des représentants des salariés qui sont dans certains conseils d'administration. Donc, on voit bien à quel point ça modifie que peu la politique des entreprises. Donc, je veux dire, ça aussi, c'est vraiment, c'est nous prendre pour des imbéciles, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout, c'est pas une disposition qui permettra d'instaurer un contre-pouvoir par rapport aux employeurs. C'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire.
Excusez-moi, juste une chose. Je pense que vous avez fait la liste des choses dans cet accord qui est effectivement complètement au bénéfice des employés et des ouvriers. Et puis évidemment, à l'inverse, qui les dessert complètement. Quelles sont vraiment les grandes lignes qui sont négatives ou positives dans cet accord? Est-ce qu'il y a des choses bonnes qui sont qui ont été faites dans cet accord?
Comme je l'ai dit un peu, nous, ce qui nous semble, c'est que les régressions vraiment, mais qui sont fondamentales et qui sont d'ailleurs beaucoup passées sous silence dans les médias ou par ceux qui ont signé, c'est, je vous dis, l'accord dit maintien de l'emploi qui va faire en sorte qu'il va y avoir une généralisation de ce type d'accord qui renvoie, au rapport de force entreprise par entreprise, hein, et qui va aboutir à une baisse de salaire, une augmentation du temps de travail avec aucune garantie, évidemment, qu'il n'y aura pas des licenciements à la clé. Et je rappelle l'exemple de Continental, ils en savent quelque chose. La deuxième chose, c'est que, pour les plans de sauvegarde de l'emploi, là aussi, il y a des dispositifs qui vont permettre de déroger au code du travail et qui vont permettre aux entreprises de se dégager de toute obligation légale par rapport aux obligations légales et conventionnelles des licenciements. Donc, je veux dire, c'est quand même une régression aussi là majeure. En plus, il y a aussi dans les textes la suppression totale du droit de contestation par les salariés et les juges des causes des licenciements, c'est-à-dire une contestation sur le fond, hein, sur des licenciements. Donc là aussi, il y a le dispositif est fait de telle sorte que, comme il y aura plus possibilité de contester sur le fond, les raisons des licenciements.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller au prud'homme ou qu'on ne pourra plus contester rue ?
Par rapport au prud'homme, ce qu'ils ont introduit, c'est carrément de réduire les délais de recours au prud'homme. C'était 5 ans auparavant et maintenant, c'est entre 12 mois, enfin je ne sais plus, de mémoire, j'ai plus
ans,
en tête, mais enfin, en tout cas, il y a une restriction des droits en termes de délais par rapport à la contestation devant les prud'hommes. Ensuite, par rapport aux licenciements sans cause réelle et sérieuse, ils ont instauré des indemnités plafonnées, hein. Donc ça veut dire que là aussi, on peut dire que c'est carrément une spoliation des salariés.
En cas de conciliation, hein, en cas de conciliation devant les prud'hommes, la réclamation.
En cas d'accord entre les deux parties, quoi.
Alors justement, là-dessus, on se posait la question, est-ce qu'il s'agissait, parce qu'on sait souvent qu'il y a d'abord une négociation, enfin, il y a ce qu'accorde le droit du travail quand il y a un licenciement économique, mais ensuite, en cas de contestation au prud'homme, est-ce que cette histoire, c'était juste apparemment pour la conciliation et, c'est-à-dire pour trancher le litige et pour obtenir en plus des indemnités déjà versées, il y a un doute sur cette question.
J'ai mal entendu.
Et bien, en fait, on se disait en voyant l'accord qu'en fait, ce plafonnement des indemnités n'était lié qu'en cas de recours au prud'homme, de conciliation au prud'homme. C'est-à-dire qu'a priori, en lisant l'accord, on pouvait considérer que les droits qui étaient acquis par le salarié en cas de rupture du contrat, c'est-à-dire de licenciement collectif, ça c'était acquis. Et puis ensuite, en cas de démarche au prud'homme, il pouvait y avoir une procédure de conciliation dont le montant maximum était fixé donc effectivement à si ma mémoire bonne 14 mois pour 25 ans d'ancienneté.
Oui.
Mais on peut supposer qu'au prud'homme la personne obtiendrait probablement plus après 25 ans d'ancienneté quoi en cas de contestation de licenciement. Mais on a un doute. Par contre alors sur un accord il y a aussi la possibilité de prendre en compte dans le cas de licenciement la compétence professionnelle. Et là je dois dire que on est tous un peu stupéfaits
parce que
la compétence professionnelle c'est quand même quelque chose qui est très très vague qui est pas très très précis et puis pour le coup qui produit un motif de licenciement, c'est pas un motif de licenciement parce qu'il y a toujours le licenciement économique qui existe, mais une sélection tout à fait hasardeuse, ça veut dire quoi exactement ?
Pour quelle insuffisance ? Sur l'ordre des licenciements, c'est ça que...
Oui, voilà, sur l'ordre des licenciements.
Ah oui, le fait que ça soit basé sur la compétence, alors que jusqu'à présent... il était tenu compte de la situation de famille. Enfin, il y avait plusieurs critères qui rentraient en compte. Et là, c'est effectivement uniquement la compétence professionnelle, ce qui est là aussi, c'est incroyable. Quoi. On ne tient plus compte de la situation des gens et on se base uniquement, oui, l'ordre des licenciements. Oui, ça aussi, c'est aussi une mesure de plus, enfin, un dispositif de plus qui est scandaleux, quoi.
Il y en a qui disent aussi au gouvernement que d'avoir signé cet accord, ça embaucherait un peu plus. Est-ce que c'est votre avis ou pas?
Là, c'est toujours la logique de ces accords.
Oui, bien sûr. Licencier pour mieux embaucher, mais bien sûr. Non, mais ça fait 30 ans. On n'arrête pas de dire, ça fait 30 ans. Qu'on instaure une flexibilité sous toutes ses formes. Ça fait 30 ans que le patronat dénonce la soi-disant rigidité du marché du travail en France, alors que ça fait 30 ans qu'il y a des mesures qui sont prises, que ce soit par les gouvernements gauche ou droite, qui aggravent la flexibilité et le chômage continue d'augmenter. Donc, il suffit simplement ce constat-là, quoi. Je veux dire, c'est évidemment... évident que c'est évidemment pas ça qui permet de créer des emplois, enfin je veux dire, et d'empêcher les licenciements, je veux dire, les employeurs, je veux dire, c'est pas des bisounours, hein. Je pense qu'ils essayent d'engranger à chaque fois le maximum de flexibilité, de précarité,
et de profit.
Alors quel aurait été le bon accord, si là pour revenir à part, à dire l'interdiction des licenciements, mais en dehors de ça,
ceux qui font des bénéfices, donner aussi un droit de veto sur les licenciements aux représentants des salariés. C'est au contraire par rapport au groupe, par rapport à la précarité au CDD par exemple. Bon, et, au lieu d'introduire de vagues augmentations des cotisations chômage pour les CDD, enfin les cotisations patronales hein, pour les CDD de moins d'un mois ou de 1 à 3 mois, et ben il fallait plutôt, et c'est-à-dire ça avait été un peu une discussion au début, c'est d'imposer d'abord entre guillemets des quotas aux employeurs en termes de recours au CDD, et puis en ajoutant une surcotisation, mais en tout cas des quotas quoi. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que les employeurs vont faire des CDD de 3 mois et 1 jour, voilà, puis c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Et puis en termes de nombre d'embauches en CDD, ben ça va continuer, même de pire en pire. Par exemple, enfin, par exemple sur, évidemment, il aurait fallu absolument pas valider tout ce qui concerne les accords de maintien de l'emploi qui vont évidemment permettre de faire travailler les gens beaucoup plus en les payant moins et pour les licencier au bout du compte d'ailleurs, donc ça devrait jamais dû être dans ce type d'accord, ça devrait même pas exister, parce que en plus s'il y a des problèmes conjoncturels et ben de baisse d'activité, ben le chômage partiel suffisait largement en permettant aussi que les salariés pendant ce temps de chômage partiel soient payés à 100%, et ça voulait dire aussi que le patronat on les obligeait à mettre au pot quoi.
Oui, alors que là ils risquent
de payer à 100% par exemple. Enfin voilà, je veux dire ça bon, enfin on pourrait multiplier
j'ai un de mes camarades qui voudrait vous poser une question.
Vas-y, oui, Christophe.
Oui, bonjour. Moi, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je suis absolument pas étonné. Et j'ai envie de vous poser une question un peu plus philosophique. C'est que c'est quoi la différence entre le libéralisme américain et l'ultra-libéralisme à la française dans cet accord ?
Je sais pas, américain, je sais pas que les Américains qui font. Je pense que, malheureusement, je pense que la Grande-Bretagne est pas mal. Au Japon, c'est pas mal non plus. Je veux dire, bon. Si on parle de mondialisation libérale, c'est pas pour rien, hein, malheureusement.
Non, peut-être non, par rapport au Danemark, peut-être.
Quoi qu'au Danemark, là aussi, ça commence leur compromis social à eux commence largement à s'effriter, hein, parce que en termes de prestations par rapport aux chômeurs, par exemple, enfin, là aussi, ça commence franchement à être attaqué aussi. Hein, donc, mais bon, voilà. Mais en même temps, il y a eu des moyens, effectivement, à un moment donné, qui ont été mis par rapport aux prestations sociales, par rapport aux chômeurs, enfin, mais là ça commence à s'effriter, hein, par ailleurs.
Et puis à la limite c'est
la même chose aujourd'hui, hein. Ce qui est dramatique, c'est que, enfin moi je parle du point de vue syndical, c'est que je pense qu'il y a un renoncement de la plupart des organisations syndicales justement à contester cet ordre libéral, et que même c'est même consternant, c'est-à-dire que l'idée même, enfin les dogmes libéraux sur la compétitivité est totalement maintenant imprègne totalement le milieu syndical, et en France ou en Europe d'ailleurs. Donc c'est ça qui est dramatique, hein, c'est qu'il y a les syndicats qui ont encore en tout cas l'objectif d'une transformation sociale radicale, on commence à être de moins en moins nombreux, hein. Donc je veux dire, il n'y a pas de côté patronat, hein, le problème. C'est que c'est le mouvement syndical aussi qui, malheureusement, est sur une dérive d'acceptation du libéralisme et qu'on aménage à la marge. Bon, mais voilà, donc c'est pour nous, c'est un vrai problème. Hein, c'est un vrai problème.
J'ai une deuxième question qui est en lien direct avec ma première, c'est que on a aujourd'hui une génération de 20 à 40 ans qui a connu la précarité du CDD pendant 5 à 10 ans en moyenne, hein, selon les statistiques avant le CDI. Est-ce que vous pensez que les jeunes qui aujourd'hui arrivent sur le marché du travail en France, quel que soit leur niveau de qualification, vont connaître la précarisation déguisée par des CDI intermittents ad vitam aeternam?
Bah, je pense malheureusement que c'est pas cet accord-là qui va en tout cas obliger les employeurs à embaucher les jeunes en CDI, hein. Donc je pense que effectivement, bon, le problème est toujours pas résolu, donc moi, je pense que c'est une bataille qui est devant nous, hein, parce que là, je, compte tenu de cet accord, franchement, c'est pas ça qui va permettre de faire en sorte que les jeunes rentrent sur le marché du travail en CDI. Hein, non, je pense que c'est malheureusement. Ça, c'est aussi la responsabilité des directions syndicales, justement, de se battre par rapport à l'embauche des jeunes, autrement que qu'en contrat précaire. Mais non, moi je pense que malheureusement, s'il n'y a pas des batailles d'ampleur, des batailles sociales sur ces questions-là, je pense qu'il n'y a aucune raison, mais aucune raison, que le patronat continue pas à embaucher de manière précaire les jeunes. Hein. Donc, moi, il faut avoir aucune illusion sur les intentions des employeurs vis-à-vis des jeunes, bon, pour faire en sorte qu'ils soient plus précarisés. La fonction publique, d'ailleurs, n'est pas mieux. Enfin, de ce point de vue-là aussi, on aurait beaucoup à dire sur la précarité dans la fonction publique. Hein. On ne peut pas dire que ça, aussi que l'exemple soit donné de ce point de vue-là. Enfin, bon, bref, c'est une autre histoire, mais...
Moi, j'ai une dernière question de partie. La première, c'est savoir, est-ce que vous pensez que par cet accord, que les 35 heures ont été battues en brèche? Et en secondement, c'est quelles vont être les actions que va mener justement Solidaire dans les semaines qui vont venir?
Alors, sur les 35 heures, c'était totalement absent de... La réduction du temps de travail comme thématique est absolument absente de l'accord. Mais si on prend l'accord maintien de l'emploi, c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est une augmentation du temps de travail avec baisse des salaires. Donc c'est alors que la revendication syndicale consiste au contraire à réduire le temps de travail sans perte de salaire avec embauche correspondante. Donc on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Donc cette thématique, elle est absolument pas abordée dans l'accord. Mais on sait très bien que le MEDEF et d'autres officines patronales comme la FEP, qui est l'officine des entreprises du CAC 40, eux veulent évidemment revenir sur la loi des 35 heures. Ils ont toujours cet objectif-là. Hein, donc je pense qu'eux vont continuer à mener la bataille. En tout cas, dans l'accord, ça n'apparaît absolument pas. Et c'est côté gouvernemental, l'idée de remettre sur le tapis la question de la réduction du temps de travail est absolument pas mais abordé, hein. Donc ça c'est là aussi c'est et pourtant ça serait une des réponses pour faire diminuer le chômage, c'est évidemment une réduction du temps de travail sans perte de salaire, j'insiste, et avec embauche correspondante.
Et sur aussi c'est une question subsidiaire, est-ce que finalement l'accord remet en question le CDI, puisqu'on voit bien qu'avec ces histoires de CDI intermittent,
il y a le CDI intermittent qui est de fait un contrat précaire, hein. donc ça, c'est un contrat précaire de plus, donc oui ça s'ajoute au CDD, à l'intérim, au travail saisonnier, donc oui c'est un contrat précaire de plus, quoi. Oh, ce qui pouvait concerner par exemple que les gens du spectacle, là c'est généralisé, donc c'est au contraire, oui, effectivement, une aggravation de la précarité en quelque sorte, hein, puisque ça complète l'arsenal des contrats précaires, hein.
D'accord. Alors justement, à propos de Solidaire, on sait qui vous êtes, hein, parce qu'on est très proche de vous idéologiquement parlant. Mm-hmm. Mais quelles vont être vos actions justement dans les semaines qui viennent pour éventuellement faire prendre conscience aux gens que cet accord, en fait, c'est...
La moindre des choses, et bon, des autres, c'est-à-dire la CGT, le FEI ou d'autres, c'est d'abord parce que c'est quand même, il faut absolument faire du matériel qui explique vraiment le contenu de cet accord, vraiment démontrer en quoi c'est vraiment une régression sociale majeure, parce que quand on voit les commentaires dans les médias ou ceux du gouvernement ou les signataires, bon, qui eux aussi vont faire leur vont vendre l'accord évidemment à grand renfort de matériel et de déclarations, donc évidemment il faut absolument avoir des contre-argumentaires qui donnent une grille de lecture du fond de cet accord. Donc ça, c'est le minimum évidemment que tout syndicat doit faire, hein, ça paraît évident. Après, on va faire une lettre ouverte aux syndicats non signataires vous pensez aussi que cet accord est une régression majeure du point de vue du droit du travail et des intérêts des salariés, donc en les appelant à construire la mobilisation de manière unitaire. Bon, alors après, sur le répondant en face, je mets 3 points d'interrogation. Donc, enfin bon, c'est la moindre des choses que de n'interpeller ceux qui n'ont pas signé. Hein.
Oui,
on sait par ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas que les organisations syndicales. Il faut savoir que le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France, je ne sais pas si vous avez vu les communiqués, mais sont extrêmement critiques par rapport à l'accord. Alors, beaucoup du point de vue par rapport aux problèmes juridiques de recours, de choses comme ça, mais en tout cas ils ont un regard très critique par rapport à l'accord. Donc on va aussi essayer de voir avec le SAF et le syndicat de la magistrature comment on peut avec des syndicats comme ça aussi voir ce qu'on peut construire ensemble, hein, donc et après au niveau en tout cas des parlementaires qui sont censés donc examiner courant avril la loi qui doit retranscrire cet accord. Bon, évidemment, comme on va faire en sorte de là aussi de s'adresser à eux en expliquant là aussi en donnant une grille de lecture de l'accord. Bon, alors sans trop d'illusions, mais en même temps, je veux dire, c'est là aussi c'est je dirais comme c'est ils sont censés ratifier une loi qui contiendrait cet accord. Bon, le moindre des choses, c'est aussi d'essayer de peser de ce point de vue-là. Et puis après, toute la question, c'est que c'est la mobilisation, quoi. C'est expliquer dans les entreprises pour essayer d'avoir des mobilisations un peu conséquentes par rapport à cet accord. Bon, voilà. D'accord. Il faut quoi absolument. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Donc.
Moi, c'est sûr.
Voilà, donc on va essayer de faire ça, bon, en sachant qu'évidemment solidaire tout seul, si les autres syndicats qui n'ont pas signé ne veulent pas construire un rapport de force, ça va évidemment être extrêmement compliqué parce que c'est pas solidaire tout seul qui
mais
peut.
Mais vous serez quand même avec la CGT, foules, hein. CGT aussi sera dans la rue éventuellement avec vous. Il y a pas de a priori, il y a pas de sujet.
Pardon.
La CGT aussi sera dans la rue avec vous si jamais il faut descendre dans la rue. Je pense que
c'est même la CGT qui est assez déterminante dans
cette affaire. Voilà, tout à fait.
C'est vrai,
oui.
C'est quand même la confédération la plus importante.
Bien sûr.
Donc c'est évidemment la CGT qui est déterminante dans cette affaire là, quoi. Donc après il faut. Le problème de FO, c'est qu'ils sont contre l'accord, mais c'est vrai que on ne sait pas s'ils seraient prêts à faire des mobilisations unitaires, parce que souvent ils se mettent un peu à part des fois des mobilisations, donc on ne sait pas trop quels seront leur jeu là, de ce point de vue-là. Bon, est-ce qu'ils vont simplement se contenter d'interpeller les parlementaires? Voilà, donc.
En tout cas.
Mais la clé, c'est vrai que c'est évidemment si la CGT pense que, en gros, c'est trop difficile, il n'y a pas moyen d'eux, on va être un peu coincé, même si on peut faire des choses, hein, côté solidaire, mais tout le monde comprend bien qu'on n'a pas le poids, malheureusement pas encore en tout cas, qu'on n'a pas le poids d'une confédération comme la CGT.
Tout à fait.
Donc,
excusez-moi, je suis obligé de vous couper parce qu'on a d'autres sujets à traiter dans cette émission. En tout cas, je vous remercie énormément pour être intervenu sur cette antenne. Vous pouvez toujours, bien sûr, Solidaire, l'ensemble de Solidaire ou même d'autres mouvances qui sont proches de la vôtre, téléphoner à cette antenne pour donner les informations concernant les mobilisations. Les animateurs se feront un plaisir de le dire au micro pour les auditeurs.
Bien sûr, oui.
À ce même numéro que vous venez de faire. Merci beaucoup, madame, en tout cas, d'être intervenue.
Il n'y a pas de quoi, c'est normal.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir. Au revoir. On écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole pour une dernière brève. Voilà, merci.
Je ne sais pas où je vais, ça je l'ai jamais bien su. Mais ça je l'ai jamais bien su.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous reprenons la parole après cette chanson de La Roue qui est à nous. Donc, dis-nous un petit peu, Ludo, les dernières informations que tu as eues par rapport à cet accord. Donc, je crois qu'il y a deux sujets sur le feu là qui sont importants.
Alors, pour conclure sur cet accord, c'est parce qu'on est dans une émission sur le chômage. Donc, dans l'accord, il était conclu un droit rechargeable à l'assurance chômage. Ça voulait dire, en fait, que quelqu'un qui ouvrait des droits suite à un licenciement et, pouvait reprendre un travail tout en gardant ses droits, quitte à ce qu'il le quitte après. Et comme ça, il pouvait accumuler les droits. Donc, sur le principe, c'était une très bonne idée, sauf que dans l'accord lui-même, on s'aperçoit que c'est soumis à expertise de l'UNEDIC, en fait, et que c'est conditionné à l'équilibre, implicitement conditionné à l'équilibre financier de l'UNEDIC. Et donc l'accord lui-même, en fait, est renvoyé à la prochaine négociation UNEDIC. Bravo. Qui aura lieu en mars 2014.
D'accord.
Donc vous voyez, c'est dans un an, et oui, donc c'est très très hypothétique.
Alors t'avais juste une petite annonce sur les retraites, dis-moi, je
crois. Oui, alors en fait, c'est sur les complémentaires retraites, c'est qu'on voit vraiment que... que le gouvernement, oui, c'est, en fait l'accord n'est pas signé, donc mais il semble qu'effectivement, vu que les retraites complémentaires ARCO et AGIR sont en déficit, le gouvernement envisage tout simplement de réduire, c'est-à-dire de désindexer les pensions des complémentaires de moins 1,5% en fait par rapport au coût de la vie. Mm-hmm. Donc dans certains cas, ça fait dire au syndicat que si par exemple l'inflation est à zéro, les pensions sont appelées à être réduites, à être négatives, ou voire à les allonger, c'est-à-dire à anticiper la prochaine réforme des retraites sur l'allongement des cotisations. Oui. Et donc en préalable déjà d'allonger les cotisations aux complémentaires retraites. Donc ça annonce clairement la prochaine réforme des retraites.
D'accord, merci Ludo. Un dernier coup de gueule, dis-moi Christophe.
Ah oui, mais là c'est le circus. François Chérec, notre monsieur loyal, devient le monsieur pauvreté du gouvernement. Non, ce n'est pas une blague, c'est une info exclusive du journal La Croix. Par ailleurs, le gouvernement recrute de plus en plus à la CDT. Peut-être qu'entre apparatchik et sociotête, on se serre les coudes et on s'entend bien. C'est la question que pose l'article. Donc, selon nos dernières informations, Jean-Marc Ayrault devrait annoncer le lundi 21 janvier, à l'occasion d'un comité interministériel de lutte contre l'extrusion, CIL, qu'il confie à l'ancien secrétaire général de CDT la mission de suivre l'application de son plan pluriannuel contre la pauvreté d'ici à 2007. Ça devrait coûter 2,5 milliards d'euros. Je fais le parallèle avec nos pigeons qui ont eu en moins de 4 jours 20 milliards d'euros d'exonération de charges fiscales. Puisque notre cher François, inspecteur général des affaires sociales, va faire un petit pas de plus dans l'affaire politique. En effet, il devient le président du laboratoire d'idées Terra Nova, considéré comme proche du CS. Je veux même dire créé par les jeunesses socialistes, entre autres. Alors, c'est formidable, parce que quelques petits rappels, c'est d'abord un poste clé pour le gouvernement, puisque ce monsieur va travailler sur un certain nombre de points essentiels.
Comme quoi ça sert de signer les accords. Hein.
Voilà, oui, absolument. Mais c'est justement, on va y venir. François Chérec avait fait d'abord... On va faire quelques petits rappels sur Sieur François. D'une part, François Chérec avait fait de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir une marque forte de son mandat. J'ai pas les rires des séries américaines.
Oui,
voilà,
j'ai pas
voilà.
Rien non plus, moi.
Voilà. Durant la course à l'Élysée, le syndicaliste, fils de Jacques Chérec, ex numéro 2 de la CFDT et ministre de Michel Rocard, avait même positionné son organisation comme ni neutre ni partisane. Alors c'est formidable, à la différence de la CGT qui avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, en guise de remerciement, il s'apprête à occuper un poste clé pour la gauche, même s'il n'entre pas au gouvernement. Le Premier ministre en sera le garant, évidemment, de cette commission de lutte contre la pauvreté et puis son cher monsieur pauvreté. Alors, il y aurait dans les starting blocks une revalorisation du RSA SOC de 10% en 5 ans, oui. Élargissement de la complémentaire santé universelle, création d'une garantie jeune, on ne sait pas ce que c'est. Réduction des pénalités bancaires pour les personnes fragiles. Nouvelle solution d'hébergement pour les sans-abri. Ah bon. Alors, le plus beau, c'est... On est entre gens de bonne famille, c'est que certaines associations sont satisfaites parce que la question de la légitimité de cet ancien éducateur spécialisé qui est François Chérec ne se pose pas selon un certain nombre d'entre elles. Voilà, c'est formidable. C'est un bon choix. François Chérec est une personnalité intéressante et de carrure, éducateur spécialisé de formation qui a une très bonne connaissance du secteur de l'action sociale ou comment fabriquer de la pauvreté en toute légalité. Alors, on va rappeler qui est notre cher François. C'est le monsieur qui, au nom de la justice social a créé le fameux accord des recalculés en foutant des centaines de milliers de chômeurs et précaires à la rue et en leur coupant tout simplement le droit de vivre. Voilà, rideau.
Merci Christophe. Alors une dernière annonce, demain c'est les SDF dans la rue, c'est ça?
Demain les SDF du 3e sont dans la rue pour demander qu'ils aient des endroits pour mettre leurs bagages et de ne pas le traîner à longueur d'années de journées avec eux. Et c'est ce qu'avait promis le maire de Paris, Delannoy, et qu'il il y a 2 ans et demi, et qu'il n'a pas tenu, du moins, il n'a pas très tenu ce contexte-là. Il y a très peu, même, il y a très peu d'endroits où tu peux garder.
Il n'y a pas de consignes pour mettre les bagages des SDF.
Il y a très peu de consignes. Ouais, il y a peut-être 1%.
Donc demain, c'est dans le troisième. Oui. Hein. Donc il faut y aller absolument pour soutenir les SDF, parce que ce sont des hommes et des femmes aussi qu'il faut soutenir.
Oui.
Merci beaucoup, Thierry. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, de l'avoir faite. Merci, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Auditeurs, auditrices. Je fais un gros bisou aux filles et une poignée de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir les filles.